Ignacio de Loyola ou la naissance d'une vocation de paix, tel est le thème de la conférence que vous allez suivre dans quelques instants. Conférence présentée par l'historienne de l'Espagne, Béatrice Leroy. Dans cette première partie, Béatrice Leroy abordera le contexte politique et religieux du royaume de Navarre, mais aussi plus largement de la péninsule ibérique, ainsi que de l'ensemble du monde chrétien. Cette intervention était précédée d'un mot d'introduction de Fernando Soler, consul général d'Espagne à Bayonne, que nous écoutons maintenant.
Monsieur le recteur de cette belle cathédrale de Bayonne, monsieur l'abbé Esponte, madame Leroy, mesdames et messieurs, je suis honoré de faire cette petite introduction à la conférence de Madame Leroy. Je voudrais tout d'abord remercier la cathédrale de Bayonne pour organiser cette conférence et pour m'inviter. On va vous parler d'un des grands personnages du XVIe siècle en Europe. Rien que pour la fondation de la Compagnie de Jésus, Ignacio de Loyola mériterait déjà d'être considéré comme tel. Mais si on ajoute les exercices spirituels qu'il a écrits, qu'il a publiés avec tant de succès et qui se font toujours, et on rappelle cette vie romanesque qu'il a menée comme gentilhomme, homme de cour, soldat et finalement prêtre, si on se rappelle les voyages qu'il a faits, il est allé jusqu'à Jérusalem, il est allé en Flandre, en Angleterre, bien sûr à Paris où il a fondé la Compagnie de Jésus et finalement à Rome. Si on se rappelle tous les voyages qu'il a fait aussi en Espagne, on voit que c'est quelqu'un de vraiment remarquable. Mais je laisserai à Madame Leroy de vous parler d'Ignacio de Loyola et je voudrais aussi souligner le fait qu'on célèbre cette année le 4e centenaire de la canonisation de 4 grands saints espagnols en 1622. Et il y a un beau livre qui s'appelle « L'été de quatre rois », qui est l'année au mois de juillet et août où il se succédèrent quatre rois en France. On pourrait parler aussi de l'année de quatre saints espagnols, 1622, où il y a eu une quintuple canonisation, les quatre saints espagnols et saint Philippe Neri. Il s'agit de la canonisation de Santa Teresa de Jésus, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier et San Isidro. C'est-à-dire que ce ne sont pas des saints mineurs. Je ne sais pas si on peut établir une catégorie entre les saints, mais en tout cas, ce sont des saints très importants pour l'Église et pour la foi catholique. Et je voudrais simplement rappeler ce quatrième centenaire de cette quadruple canonisation. Et rappeler aussi l'immense contribution de l'Espagne à la foi catholique. Et ces quatre saints qu'elle a donnés, c'est déjà quelque chose de très important pour notre foi. Et voilà, je finis ici pour laisser la place à Madame Leroy. Je vous remercie beaucoup de votre présence avec nous aujourd'hui. Merci.
Merci. Je pense que vous m'entendez bien. C'est bien branché. Voilà. Je vous remercie. N'ayez pas trop froid. Soyez patients. Et je commence tout de suite. Monsieur l'abbé Esponde, monsieur le consul, monsieur le musicien et chers amis, quelques mots pour parler d'une vocation, d'un retour sur soi-même et quelques grandes dates pour marquer la carrière de Saint Ignace de Loyola. Appelons le saint, bien sûr, Inigo, Ignati, peu importe. Voilà donc ce qu'il faut souligner. Je pense qu'il est plus correct de commencer par une phrase elle-même de Saint Ignace. Dieu, en m'instruisant lui-même, me traita comme un maître d'école vis-à-vis d'un enfant, ce qui est évidemment le don de soi pour Saint Ignace, dans la dépendance totale de Dieu. Et un peu plus tard, dans les exercices spirituels, il a dit qu'il avait été adoubé par Dieu. C'est un terme de chevalerie on va voir le poids de la chevalerie chez Isidore et chez tous ses contemporains. Donc, il est devenu marqué par l'épée de Dieu, par son service de militaire au service de Dieu. La photographie qui se trouve, l'annonce de cette conférence, enfin de cette causerie rapide, montre Ignace en armure. Il l'a très peu porté, un petit peu dans sa jeunesse, nous allons voir, mais c'est évidemment un portrait moral. Il est au service de Dieu comme un chevalier qui a été adoubé par Dieu. Voilà tout à fait l'explication donc de ce symbole. Ignace vivait en jeune chevalier. Il est membre d'une assez haute noblesse du Guipuscoa, de son entourage des Manrique de Lara, des Cuellar, etc. Donc, haute noblesse ou en voie d'être haute noblesse, ils vont tous être très vite grands d'Espagne au moment des grandes créations de Charles Quint. Donc, la grandesse qu'il faut les attend. Et c'est donc une très haute situation dans le Guipuscoa. Monsieur l'abbé Esponde m'a demandé aussi d'insister sur l'un de nos favoris à Bayonne, qui est Saint François-Xavier, le Navarrais, en insistant sur le monde opposé entre le Guipuscoa et la Navarre. Nous allons essayer de gommer tout cela, de nuancer toutes ces affirmations et en effet de montrer les deux hommes côte à côte pendant de longues années. Mais donc ce jeune chevalier qui a été très bien éduqué intellectuellement et militairement. Intellectuellement, il y aura à refaire, on va le voir tout de suite, mais donc militairement, se fait blesser de façon extrêmement sérieuse en 1521. Il est né en 1491, il a donc 30 ans. Jusque-là, il a mené la vie la plus épanouie d'un jeune noble qui a un peu tâté de tous les plaisirs de la vie. On insiste beaucoup lorsqu'on parle d'un saint qui s'est converti sur les frasques de la jeunesse, car cela met en balance toujours et cela ne fait que glorifier la reconstruction morale et intellectuelle et spirituelle du personnage en question. Je ne sais pas donc s'il a été à mettre à l'index, nous dirions aujourd'hui, mais enfin je ne pense pas, en tout cas un jeune homme comme un autre. Il est militaire au service du roi de Castille et en particulier de Antonio Manrique de Lara, duc de Nájera, qui est d'ailleurs assez proche de sa famille, Nájera qui se trouve aujourd'hui à côté de Logroño. Donc, pour ce grand noble, il faut défendre Pampelune. Nous allons expliquer tout cela. Car depuis 1512, la Castille a achevé en quelque sorte la vie indépendante de la Navarre et a pris l'essentiel des territoires qui se trouvent au sud des Pyrénées, laissant à la France tout ce qui est au nord donc de ce royaume de Navarre. Bien sûr, nous allons préciser tout cela. En 1512, les Castillans prennent Pampelune. C'est la fin donc de la capitale de la Navarre. Les rois de Navarre, les derniers rois de Navarre, Catherine et Jean d'Albret, se réfugient à Saint-Palais. Saint-Palais qui, quelque temps donc, est devenu la capitale. Mais leur fils Henri d'Albret à essayer de reconquérir Pampelune, qui est tout de même la capitale traditionnelle et historique. Il fait le siège de Pampelune, que fortifient très bien les Castillans et que défendent très bien sur les murs toute la troupe castillane. Dans cette troupe se trouve donc Ignacio de Loyola, qui est au service de ce vice-roi et qui se trouve donc dans la défense castillane contre l'essai de reprise des Navarrais aidés des Français, car Henri d'Albret, héritier par toutes sortes d'héritages féminins et des transports d'héritages donc à ces familles françaises, Henri d'Albret a épousé la sœur de François Ier. Donc une armée franco-navarraise, beaucoup plus française d'ailleurs que navarraise, se fait repousser donc d'abord dans la bataille de Noailles en 1521 aussi, et surtout des murs de Pampelune. Mais les assaillants ont eu le temps de fracasser les murs et surtout de blesser les principaux défenseurs, en particulier Inigo de Loyola, qui a eu une jambe fracturée, des boulets dans sa jambe, un genou tout à fait désormais en dehors de tout service. Il a fallu l'opérer, le réopérer, et il est resté de très longs mois allongé à lire et à réfléchir sur son sort. Laissons-le pour le moment et expliquons pourquoi il y eut divers royaumes se faisant la guerre dans cette péninsule ibérique, en particulier la Castille et la Navarre, la Castille et l'Aragon et la Navarre, et quelle était la Navarre et quelles sont les grandes dates qu'il faut retenir. Donc, dans cette histoire, on peut dire désormais espagnole, qui rassemble plusieurs royaumes ibériques. Les royaumes ibériques, depuis le 8e siècle, étaient affrontés à une autre très grande puissance, qui était l'ensemble des puissances musulmanes. Tariq avait franchi le détroit des colonnes d'Hercule, qui vont devenir le Djebel de Tariq, Gibraltar, et c'est ainsi que, en quelques mois, en 722, il est victorieux du dernier roi wisigoth qui avait tenu toute la péninsule ibérique, ou à peu près tout l'ensemble ibérique, donc dans un royaume qui fut extrêmement glorieux et riche et très fondamental, et devenu très bien chrétien. Donc les Wisigoths, qui étaient ariens à l'origine, sont entrés dans le christianisme, et c'est ainsi que tout au long du 6e, 7e siècle, début du 8e siècle, des fondations de monastères, des centres épiscopaux avaient glorifié donc cette nouvelle péninsule ibérique chrétienne relevant du roi Wisigoth. Les musulmans prennent les trois quarts de la péninsule ibérique, pas tout à fait toute la péninsule. Beaucoup de territoires de la côte cantabrique restent dans les mains de chefs chrétiens, ainsi que le centre des Pyrénées. Mais la ville de Pampelune, par exemple, a eu pendant 50 ans une garnison musulmane, très vite reprise par la suite par les premiers reconquérants. Mais vous voyez, quelques points restent chrétiens, et en particulier les Asturies, et en particulier donc la bataille de Covadonga, et puis très vite, en 830, la bataille de Clavijo, qui se trouve dans la région de La Rioja, sont des victoires chrétiennes. Et on peut dire qu'à partir donc de ce début du 9e siècle, commence ce qu'on appellera beaucoup plus tard, à partir seulement du 13e siècle, si ce n'est même encore plus tard, la Reconquista, la reconquête donc par les chrétiens du Nord des territoires qui étaient aux mains des musulmans. Les musulmans, qui vont rester très nombreux dans la péninsule ibérique. Au fur et à mesure, là évidemment c'est une toute autre question qui nous éloignerait beaucoup de Saint-Ignace, mais il faut savoir qu'au fur et à mesure des victoires chrétiennes, des retours en arrière des chrétiens, car il y a des remontées des attaques musulmanes et rien ne s'est fait d'un seul coup, au contraire, donc il faut attendre très longtemps pour que tout soit achevé, les musulmans en communauté favorisée, s'ils le veulent, passant un pacte d'assurance et de fidélité au nouveau roi de Castille ou d'Aragon ou de Navarre qui reprennent leur territoire ou du Portugal. Donc ces musulmans restent en communauté protégés avec un fouero. Comme eux, les juifs qui ont été très nombreux et qui sont restés très longtemps dans la péninsule ibérique, qui sont donc en communauté protégée, qui restent ainsi dans ces territoires et qui, au moment de la conquête et au moment de leur installation, par vagues successives, pour toutes sortes de raisons, persécution ailleurs, facilité économique, facilité politique, restent aussi donc en communauté protégée selon des fueros, c'est-à-dire des codes de droit de vie et donc dans ces territoires urbains, territoires ruraux très souvent pour les musulmans qui tiennent en communauté l'horticulture, la vie économique des campagnes et également pour les juifs plutôt installés dans les villes mais qui peuvent aussi travailler dans l'agriculture. Dans ces territoires, les rois organisent des territoires à partir de leur reconquête, avec une base politique que l'on appellera la capitale, et des frontières qu'ils surveillent très bien, d'où ils peuvent se replier, où ils peuvent se replier, à partir desquelles ils repartent, mais avec des fondations de gros monastères partout où ils passent, qui sont en même temps d'ailleurs des centres d'entraînement militaire, les moines et les évêques, peuvent posséder donc des armées à leur ordre ou aider également en gardant les armes et gardant les chevaux. C'est très important pour l'Espagne, donc celle qui va devenir l'Espagne militaire dans le courant des siècles de l'époque médiévale, les chevaux, les armes, les aides politiques ainsi et les lieux d'abri que sont les monastères et les cathédrales. Chaque ville reçoit une communauté de chanoines, un centre pour les plus grandes villes, un centre épiscopal, et surtout toutes les campagnes des gros monastères qui ont ainsi cette fonction et de protection et d'évangélisation, de mission chrétienne sur les communautés qui peuvent se trouver dans leur entourage ou beaucoup plus loin. Voilà, si vous voulez, à très très grands traits, le contexte socio-économique, socio-politique, socio-religieux de l'Espagne en cours de reconquête. Le royaume de Castille et le royaume d'Aragon sont très vite des États très importants, mais la Navarre fut peut-être le premier royaume étendu et chrétien de l'organisation du 8e siècle. Les Navarrais actuels, d'ailleurs, le disent avec beaucoup de fierté, nous avons été le plus ancien royaume de l'Espagne. On pourrait les contester, car le royaume des Asturies, donc ceci vers 820-830, le royaume des Asturies est à peu près des mêmes dates. Donc, royaume des Asturies, qui va faire naître peu à peu le royaume de Castille. Mais vous voyez donc la fierté des Espagnols actuels, et c'est une qualité, monsieur le consul, donc dans cette histoire séculaire et cette histoire des grandes réussites. Réussite de la Castille. La Castille, à un moment donné du XIIe siècle, le roi du Léon et des Asturies épouse l'héritière du comté de Castille. et très vite prend le titre de roi de Castille. La Castille, donc, qui tient au fond toute la tranche centrale et septentrionale du nord, donc de la péninsule ibérique. Et l'un des gendres de ce roi de Castille, qui a beaucoup d'envergure, Alphonse le Grand, peu importe, l'un des gendres est un prince venu de Bourgogne, Henri de Châlons, donc de Châlons en Bourgogne, et Henri de Châlons délivre au nom du roi de Castille, mais très vite en son nom propre, délivre la ville de Coimbra, délivre surtout en 1140, enfin c'est son fils Alphonse, mais peu importe, la ville de Lisbonne, qui devient un très grand port, très remarquablement situé vers l'Atlantique, sur l'Atlantique, à l'embouchure du l'embouchure du Tage, pardon. Et c'est ainsi que s'amorce la richesse de ce qui devient le Portugal et qui donc va essaimer vers les rivages atlantiques. Et il prend son indépendance, on le lui reconnaît, en tout cas c'est une décision qui est authentifiée vis-à-vis de la Castille, car jusque-là il tenait ses territoires sur les ordres du roi de Castille. La Castille, immense grand royaume. L'Aragon, qui est resté longtemps autour de Jaca, qui n'a jamais reçu de garnison musulmane. De Huesca, qui a été reconquise en 1096, et c'est une très grande victoire. Et puis peu à peu, donc, les territoires qui tiennent la vallée de l'Èbre, où se trouvaient des émirats très importants. Il a fallu beaucoup lutter au roi d'Aragon, qui tenait donc l'Aragon des Pyrénées. Il a fallu beaucoup lutter pour cette réinstallation tout le long de la vallée d'Èbre et de ses tributaires. Et c'est ainsi que, en 1118, 1119, 1120, enfin, on prend Saragosse et Tudela, qui est légèrement en amont et qui est donc une conquête du roi de Navarre et du roi d'Aragon ensemble, et aidés de leurs amis béarnais ou normands, Béarnais et Gaston de Béarn, l'un des nombreux Gaston de Béarn, mais c'est Gaston le Grand, que l'on appelle aussi Gaston le Croisé, qui avait été l'un des grands artisans de la reconquête de Jérusalem, par exemple. Donc Gaston du Béarn, qui devient le seigneur de Saragosse, le maître de Saragosse, et en particulier donc des sanctuaires de Saragosse. Et le Rotrou du Perche, comte du Perche, qui est en Normandie, enfin à l'est de la Normandie, donc le Rotrou du Perche, qui devient le seigneur de Tudela. Vous voyez donc cette participation des Français très active, des Béarnais, des Bigourdans, des Aquitains en général, et plus loin, des Bourguignons, des Normands qui travaillent pour le roi de Castille, pour le roi d'Aragon, pour le roi de Portugal, pour le roi de Navarre, dans ces reconquêtes successives. La Reconquista, une énorme aventure, immense aventure, qui a ses ratés de parcours, lorsque viennent les Almoravides pour tout brûler, lorsque reviennent au XIIe siècle les Almohades pour tout brûler aussi. Ils ont été jusqu'à brûler le monastère de tous les monastères du Nord, et en particulier les monastères qui étaient des fondations bénédictines et cisterciennes, qu'il a fallu donc reconstituer par la suite. Donc, des graves difficultés, mais un travail de reconquête qui est toujours en cours et qui va être pris en charge par les rois d'Aragon, par exemple, qui reconquièrent les Baléares, 1200, 1228, l'entrée dans Majorque et la maîtrise de l'île de Majorque. C'est terminé en 1235. C'est alors que naît Raymond Lulle, par exemple, à Majorque, dans un milieu de frais colons qui se réinstallent dans ces baléares très essentiels pour la vie économique et la vie politique. Et puis, la conquête en 1235 jusqu'en 1238 du royaume de Valence, donc reconquête des territoires de la Méditerranée, des îles essentielles et des ports principaux de ces rivages méditerranéens pour la couronne d'Aragon, dit bien la couronne d'Aragon, qui possède l'Aragon proprement dit, mais également le royaume de Valence, également les Baléares, également des territoires sur la côte languedocienne, donc très grosse puissance. Je ne vais pas dire essentiellement, mais j'ai envie de le dire quand même, essentiellement méditerranéenne, avec des comptoirs dans l'Afrique du Nord, tout le long du Maghreb, qui relève de l'autorité de ce roi de la couronne d'Aragon, et donc des intérêts tout à fait remarquables. Et la Castille, donc, qui est plus rurale, plus continentale, plus organisée. Entre la Castille et l'Aragon, la Navarre. La Navarre, qui fut donc un très grand royaume, qui est désormais un État très exigu, car la Castille et l'Aragon, chacun de leur côté, reconquièrent les territoires, vous voyez la Rioja, l'Ebre, etc., qui furent des territoires de la Navarre, mais qui sont désormais dans les mains de la Castille et de l'Aragon. Donc, roi de Castille d'un côté, roi d'Aragon de l'autre, essaie de conquérir, alors cette fois-ci sur des chrétiens, les Navarrais sont très chrétiens, donc, et non plus du tout sur des musulmans, essaie de prendre politiquement et militairement, il n'est plus question de conquête religieuse, ce petit territoire de la Navarre. La Navarre, depuis le XIIIe siècle, par toutes sortes d'héritages, est passée dans des mains étrangères à la Navarre. Les comtes de Champagne, les rois de France, qui se sont dit rois de France et de Navarre. Il ne faut jamais oublier la Navarre. Et de Navarre. Quand on dit dans toute la France, et de Navarre. Donc, France et Navarre, voilà, roi de France. Puis comte d'Évreux, puis des Trastamares qui sont de famille castillane et aragonaise, quelque temps, mais ensuite, toujours par un mariage des héritières, la famille d'Albret. Et c'est ainsi que, dans les années que nous connaissons avec Saint-Ignace, la Navarre est non seulement très menacée, mais peu à peu conquise, au cours d'ailleurs de guerres civiles de la Navarre, enfin toutes sortes d'ennuis qui nous entraîneraient trop loin, qui appauvrissent complètement la Navarre du côté espagnol, donc qui laisse la Navarre sur elle-même. La Navarre a une très grande richesse, le col de Roncevaux. Tout le monde passe par la Navarre. Tout le monde passe par la Navarre lorsqu'on vient de France et que l'on va en Espagne. Lorsque l'on vient également des régions orientales, car un des débouchés du col du Somport est Sangüesa en Navarre, et c'est toujours la route. Or, tous les pèlerins, évidemment, il faut parler des pèlerins à Santiago de Compostelle, qui est très patronné par le roi de Castille, aidé, jalonné d'ailleurs d'abord par des monastères clunisiens peuplés de Castillans. Donc, les voilà, ces pèlerins qui passent de façon constante jusqu'à Compostelle, qui passent par la Navarre et qui permettent ainsi ce coup d'œil et qui est une réalité pour nous, les habitants de la Navarre du Nord, si vous voulez, la maîtrise de ce qu'on appellera la Basse Navarre, c'est-à-dire la région que l'on appelle Outre-Port depuis Pamplune à l'époque médiévale, Ultrapuertos, mais donc un territoire qui couvre une partie de nos actuelles Pyrénées-Atlantiques, donc la région des collines, de quelques cours d'eau, qui est d'ailleurs très convoité aussi par le Béarn qui se trouve dans sa frontière orientale, par les régions aquitaines qui relèvent de l'évêché de Dax pour sa frontière septentrionale et par la Castille, évidemment, qui se trouve très voisine dans la frontière occidentale. Mais une Navarre que l'on peut dire donc de culture non pas française à part entière, française de Paris, pas du tout, mais une Navarre très aquitaine, très béarnaise, très néo-béarnaise, très néo-aquitaine, très néo, pourquoi pas, franco-anglaise, avec le port de Bayonne, si vous voulez, voilà, donc dans la partie septentrionale. C'est donc ainsi que, dans ce contexte politique, qui est une réussite en 1469, enfin, la Castille et l'Aragon sont reliés par un mariage, c'est-à-dire, oh, les peuples ont mis longtemps, et actuellement encore, il paraît que les Aragonais ne sont pas Castillans, les Castillans ne sont pas Aragonais, donc le mariage des rois catholiques est toujours sensible. Mais la reine de Castille, qui a pris la tête d'un gouvernement, beaucoup diront que c'est une souveraine absolue, bien sûr. Donc la reine Isabelle de Castille, qui est une très grande dame, de très grande tête politique, et très chrétienne, et qui veut cette réussite, épouse, c'est elle qui l'a voulu, parce qu'il regardait ailleurs, il avait déjà d'autres femmes, des bâtards, peu importe, enfin aucune importance. Pour Isabelle, aucune importance. Son cousin, Ferdinand, qui est également un cousin Trastamar, donc de la dynastie Trastamar de Castille, qui a essaimé en Aragon. Voilà, son cousin Ferdinand d'Aragon, et qui épouse en 1469 la reine de Castille. Gouvernement rassemblé, Ferdinand est resté très attaché aux nuances régionales qui émaillent la couronne d'Aragon, où toutes sortes de fueros donnent des autonomies aux divers royaumes de Valence, comtés de Barcelone, etc., donc pour ces territoires et Aragon intérieur, et au contraire, un gouvernement très rassemblé pour la Castille. Et la reine de Castille gouverne avec de grands évêques, qu'elle fait nommer archevêque de Tolède, à la tête de l'Église de l'Espagne, tout au moins de son Espagne castillane, de sa Castille, mais on essaime à côté. Alfonso Carrillo, qui a d'ailleurs célébré le mariage de Isabelle et de Ferdinand en 1469, mais qui va très vite garder une vie très indépendante, très souvent révolté contre les mesures de la reine Isabelle, enfin peu importe, c'est quand même un très grand prélat. Surtout Pedro González de Mendoza, très haute noblesse comme les autres d'ailleurs, Mendoza qui jusqu'en 1495 structure la Castille et donc l'Aragon mari de la Castille, et c'est ainsi que on peut dire que le dernier coup de balai porté aux musulmans du Sud, le royaume de Grenade qui restait, qui était d'ailleurs un royaume très riche, qui tenait non seulement Grenade, mais également toute la frange méridionale, donc tous les rivages de la Méditerranée, depuis Gibraltar, qui n'a été repris définitivement qu'en 1461. Il y avait eu plusieurs essais, 1461 seulement, pour la prise de Gibraltar jusqu'à donc les territoires qui se trouvent au sud du royaume de Valence. Et c'est ainsi que, aidé donc de toutes les forces rassemblées, des armées aragonaises qui y ont participé, et non pas seulement des armées castillanes, de quelques suppléants également des autres territoires, quelques volontaires venus de la Navarre, mais pas beaucoup, surtout alors les forces castillanes et espagnoles rassemblées et aragonaises rassemblées, 1492. Novembre 1491, c'est encore une date que nous pouvons fêter dans nos anniversaires. Novembre, fin novembre 1491, la capitulation de Grenade, qui est la dernière place forte et la capitale de ce royaume nasride, qui était très riche et très magnifique dans les États musulmans. Et c'est alors que, depuis 1479, les tribunaux d'inquisition, l'inquisition royale, l'inquisition existait depuis le XIIe siècle contre les hérétiques. Mais les hérétiques, ariens, cathares, vaudois, qui étaient encore dans l'ensemble de la chrétienté. Donc, l'inquisition, désormais dans les mains de la reine, dans les mains des souverains, travaille contre les conversos mal christianisés en profondeur. On va faire de même avec les musulmans à partir de 1521, mais ce n'est qu'en 1604 que les convertis, donc conversos musulmans, sont obligés de partir. C'est alors que les mourisques, tels qu'on les appelait, sont chassés d'Espagne. Beaucoup vont au Maroc, beaucoup aussi sur le versant aquitain, le versant pyrénéen. Il y a tout un quartier de mourisques à Biarritz, le lac Morisco, les mourisques, et donc à Bayonne et tout le long des Pyrénées, ceci jusque à la Méditerranée, reçoivent des quartiers de mourisques. Voilà. Si bien que un pape de la fin du XVIe siècle, le pape Paul IV, qui était un napolitain, Carafa Paul IV, détestait l'Espagne qui n'était qu'un repère de Maures et de Juifs et un galimatias de Maures et de Juifs, détestait aussi la France où Catherine de Médicis, au XVIe siècle, à la fin du XVIe siècle, avait soutenu quelque temps des protestants contre les catholiques, et la France s'était alliée à la Ligue de Smalcalde, qui c'était une ligue protestante allemande contre les intérêts catholiques, et détestait la plupart de la chrétienté, ce pape Paul IV, parce qu'il n'y avait pas de christianisme assez sincère. J'ai évoqué rapidement les protestants. Il faut savoir que l'un des frères augustins, c'est un ordre mineur, les quatre ordres mendiants, franciscains, dominicains, carmes et augustins, se déploient en Occident et dans l'ensemble du monde chrétien à partir du XIIIe siècle. Et le frère Augustin, qui est donc Luther en Allemagne, veut proposer une réforme intérieure qui n'est pas forcément d'ailleurs anti-pontificale au début, mais enfin pas très d'accord avec beaucoup de choses. Ceci dès 1517, et c'est en 1530 qu'il écrit les Confessions d'Augsbourg, qui alors, elles, sont très violemment opposées à la religion catholique traditionnelle, contre le culte de la Vierge et des saints auxiliaires, contre l'obéissance pontificale, etc. Voilà la scission, et l'Allemagne peu à peu gagnée par le protestantisme. Il va falloir travailler de la part des catholiques sincères qui se trouvent ailleurs à la conversion des protestants. Il faudra évidemment travailler à la conversion des faux convertis, des faux conversos, à la conversion des peuples qui se trouvent dans le monde entier, peuples bouddhistes, peuples de l'Asie, peuple de l'Amérique que l'on commence à connaître, et depuis 1492 aussi, et où il y a tout à faire pour le christianisme, mais évidemment tout va se passer ainsi. L'Afrique est déjà peu à peu gagnée, car depuis les ports du Nord, depuis les ports méditerranéens, des missionnaires vont dans les régions africaines, bien sûr. Et donc, et ainsi, et il va falloir lutter contre les protestants qui se trouvent donc d'abord en Allemagne, mais et qui peuvent se trouver un petit peu partout. Il y a même eu quelques communautés protestantes en Espagne. Il y a eu une question protestante dans les régions espagnoles, et puis beaucoup, bien sûr, en France et en Angleterre, avec une variante qui est royale, qui est l'anglicanisme, et qui, là aussi, dans ses premières années du début du XVIe siècle, dans ses années 1520-1530, donc demande aussi l'interrogation et l'action peut-être des autres catholiques qui se trouvent, des catholiques qui se trouvent dans l'ensemble de l'Occident.
Ignacio de Loyola ou la naissance d'une vocation de paix, vous venez d'entendre la première partie de la conférence de l'historienne de l'Espagne, Béatrice Leroy, enregistrée le mercredi 30 novembre 2022 en la chapelle Saint-Léon de la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne.